Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène au Tchad, un pays d'Afrique centrale situé au sud de la Libye, entouré par le Soudan, le Nigeria et le Cameroun. Alors que depuis 2003, le Tchad fait partie du cercle restreint des pays producteurs de pétrole, c'est le quatrième pays le moins développé au monde. Les deux tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le président de la République, Idriss Déby, tient ce pays gangréné par la corruption et traumatisé par la guerre d'une main de fer depuis 24 ans. Les jeunes n'ont que très peu de chances de trouver un emploi après leurs études. Beaucoup se réfugient dans l'alcool. L'alcoolisme, d'ailleurs, est un véritable fléau dans ce pays de 12 millions d'habitants. Une étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sortie en décembre 2014, montre que l'usage nocif d'alcool entraîne dans le monde 3 300 000 décès chaque année. Et si l'on ne considère que les buveurs dans la population, les buveurs africains se classent en tête, suivis par les Indiens. Les buveurs tchadiens seraient les plus gros buveurs d'alcool au monde, avec 33,9 litres d'alcool pur ingérés par an. Au Tchad, l'alcoolisme touche les hommes, les femmes et les enfants, souvent dès le plus jeune âge. Alors, comment lutter contre l'alcoolisme dans ce pays? Quelles structures accueillent les personnes alcooliques? Comment sont-ils soignés? Un reportage de Valentine Bourra.
Bienvenue à Djamena, au Tchad accueille les bras ouverts. C'est l'hospitalité, malgré un peuple qui a trop souffert, malgré les différences. On est tchadiens et on est fiers, on rêve de paix, d'un meilleur avenir pour nos frères. Bienvenue à Djamena, fais le montrer, branche ta caméra. Marque les rues, les frères et leurs camarades. Les petits vendent le cola, ils vont plus à l'école. Les grands n'ont pas de travail, beaucoup sombres dans l'alcool. Ouais, j'aime...
Pour commencer, je vous propose d'écouter Roger, 51 ans, père de 3 enfants, documentaliste. En 2013, il a décidé de faire une cure, car son supérieur l'a menacé de le renvoyer s'il ne réglait pas son problème d'alcool. Il arrivait alcoolisé au travail, avait eu plusieurs avertissements. Face à cette menace, il s'est tourné vers le Cédira, qui lui a proposé une cure. Il était rachitique, hein, pesait 55 kilos. Il raconte comment il a commencé à boire et les dégâts causés par cette addiction, comme les maladies sexuellement transmissibles.
Chez nous, au sud du pays, quand l'enfant naît, le plus souvent, il grandit dans les mains de sa grand-maman. C'est-à-dire que si la grand-mère, elle est buveuse, le petit-fils aussi devient buveur. Quand ma mère m'a amené au village, je suis choyé par mes oncles, les grand-mères, tout. Il y a pas mal de choses qu'on me donne, l'alcool indigène. Et cet alcool, ça fait plus de 90 degrés. Hein. Et l'enfant, il prend... Qu'il pleure ou pas, et après le sommeil le prend, et puis les gens sont tranquilles.
Et après, tu as commencé à boire quand tu étais adolescent?
Bon, concrètement, quand j'ai commencé à vraiment à boire, c'est après les événements du 2 février 2008. Les événements du 2 février 2008, pour nous les Tchadiens, c'est triste, c'est effrayant. Parce que c'était une infiltration du côté du Soudan, c'est des rebelles qui ont fait leur entrée jusqu'à la capitale. Et là, c'est des armes qu'on n'a jamais vues. C'était atroce. Quand on tire, aussitôt, moi, je vais aux toilettes. C'est-à-dire que j'ai la dysenterie. Alors, ça m'a mis cette peur. Et c'est comme ça que je me suis mis sous couvert de l'alcool pour ne pas avoir peur. Ma maman aussi, elle est partie parce qu'avant, elle était mon support. Elle était trop pour moi. Elle était décédée. Ça m'a fait trop penser. C'est ce qui m'a amené à boire. Il va aller boire.
Quels conseils, quels arguments tu peux donner à quelqu'un pour qu'il accepte de faire la cure quand il est alcoolique?
Ça dit qu'en étant dans l'alcool, on oublie beaucoup le côté famille. Nous, c'est le bar, le maquis et c'est tout. La famille, bon, peu importe qu'il crève ou pas, c'est pas ton problème. Alors, le conseil que je leur donnerais, c'est de réfléchir beaucoup et de s'abstenir. Et le seul moyen de s'abstenir, la seule structure qui peut vraiment amener la personne qui est dépassée, vraiment qui est au dernier souffle, d'y arriver à s'abstenir carrément de l'alcool, c'est sauf le Cédira. Puisqu'au niveau du Cédira, il y a des professionnels. Et on vous accueille à bras ouverts.
Il y en a d'autres?
Au Tchad, non. C'est sauf le Cédira.
Donc c'est pas un problème sérieux l'alcool au Tchad?
Ben oui, c'est vraiment sérieux. Le problème c'est qu'il faudrait que le gouvernement tchadien s'y mette. Parce que la jeunesse est délaissée. Quand la jeunesse est délaissée, c'est très dangereux pour demain parce qu'il n'y a plus de relève. Moi, par exemple, je suis en train de vieillir déjà, il faut des relèves. Or, beaucoup de jeunes s'adonnent à l'alcool. C'est devenu une activité. Il y a d'autres risques, et ce risque, c'est la maladie.
Lesquels ?
Ici, surtout au Tchad, et plus précisément en N'Djamena, on appelle ça la sale maladie. C'est le VIH. C'est simple, hein, quand tu es dans ton verre, tu ne fais pas le choix. Celle qui est à côté de toi, si elle est porteuse, tu ne peux pas savoir.
En fait, l'alcool.
L'alcool te pousse, oui, oui. T'entends pas, te pousse carrément à faire ce que tu ne veux pas faire. Hein. Tu le fais. Le pervers, c'est qui ? C'est ta famille. Ta femme, tes enfants. Quand tu n'es pas là, c'est fini. Et les enfants deviennent des orphelins. Et ils traînent.
Valentine Bourra, bonjour.
Bonjour Claire.
Comment va Roger aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il est en pleine forme, sobre depuis la cure. Il mène une vie familiale et professionnelle équilibrée.
Alors, vous avez passé une dizaine de jours dans une structure au Tchad qui vient justement en aide à ces personnes alcooliques.
Oui, le CEDIRA, le Centre de Recherche Diocésain de la Recherche en Alcoolologie, a été créé à N'Djamena dans les années 2000 par une religieuse française de l'Ordre des Xavières. Au départ, le centre ne faisait que de la prévention. Mais au fur et à mesure, les responsables se sont rendus compte qu'il fallait ouvrir un vrai lieu d'accueil pour sevrer la personne alcoolique. En 2010, une cure de désintoxication dans un dispensaire est née. Puis en 2013, une cure fermée à l'intérieur d'un hôpital public a vu le jour, très soutenue par les médecins locaux. Toutes les personnes alcooliques qui le désirent peuvent y participer. Et depuis, une centaine de curistes y ont participé, dont une dizaine de femmes.
Et d'ailleurs, votre reportage commence dans cet hôpital de l'amitié Tchad-Chine, dans le quartier de Djari, N'Djamena.
Les autorités locales de cet hôpital ont gracieusement prêté deux salles au CEDIRA pour les cures de désintoxication. Elles ont lieu tous les mois pendant 10 jours.
Alors comment le personnel du CEDIRA fait-il pour aider les personnes alcooliques à traverser cette période de sevrage ?
Une infirmière, Nathalie Majinga, représente les 5 premiers jours de la cure. Elle leur pose des questions sur leur état de santé, prend leur tension, leur température. Elle applique les soins prescrits par le médecin envoyé par l'hôpital qui rend visite au curiste le premier jour. Puis elle leur administre pendant 3 jours de la quinine pour prévenir les crises de paludisme, du diazépam pour réduire l'anxiété liée à l'arrêt de l'alcool et du sérum glycosé pour lutter contre la déshydratation, des vitamines pour leur donner quelques forces.
Et cette infirmière encadre depuis 3 ans les curistes.
Oui, elle a acquis une très bonne connaissance des causes de l'alcoolisme et des soins nécessaires au sevrage. Elle est très lucide sur l'ampleur de la tâche à accomplir pour lutter contre l'alcoolisme au Tchad, mais confirme bien l'efficacité des cures du CEDIRA.
Dès le premier jour, je prends le nom de mes curistes, et leur nom, leur âge, leur quartier, tout. Et je prends la tension, je prends le thermomètre. Et après, maintenant, je viens voir le médecin. Le médecin me prescrit l'ordonnance. On achète les produits et j'introduis au curiste.
Quel médicament tu utilises ?
J'utilise sérum glycosé 5% et un flacon par jour. Je mets l'autre diazépam demi-ampoule, quinine 600 une ampoule et l'autre B-complexe 2 ampoules. Donc pendant 3 jours, je fais ce traitement. Et s'il s'agit de faire des examens, je les aide à faire des examens. Et s'il y a certains gens qui ont quand même de l'autre maladie chronique, par exemple le TBC tuberculose, je les aide quand même à aller voir et puis aller faire des examens et prendre leur traitement pendant 3 mois. Sinon, le premier jour, ils ont peur, mais je dialogue quand même avec eux. Ils disent que c'est bon. Donc, dès le premier jour, ils ont quand même l'autre la difficulté, mais après le deuxième jour, maintenant, ça va. S'ils n'ont pas autre maladie quelconque, on leur laisse. Mais s'ils ont des maladies, on les met sous traitement. Par exemple, tous ceux qu'on les a eu pendant les 3 séances, là, ils ont quand même le TBC. Donc, on les aide à traiter leur TBC.
Le but, c'est d'arrêter totalement l'alcool. Comment ça marche?
Par exemple, je donne l'exemple sur les derniers curistes qui sont là. Il y a un qui a dit qu'il a 10 ans qu'il commence à boire. Moi, je lui ai posé la question, tu as 10 ans, mais qu'est-ce qui t'a amené à boire l'alcool? Il m'avait dit que c'est l'initiation qui l'a amené à boire.
Et maintenant, c'est quoi l'initiation?
L'initiation, c'est la tradition. Dans chaque lotte, il y a l'initiation.
Et ça consiste en quoi
L'initiation. Ça, c'est traditionnellement, quoi.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est secret? Tu peux pas me dire?
Oui, c'est secret. Parce qu'on amène ces gens en brousse. pendant des mois d'abord, on ne dit pas le secret de ça. Et il y a certains gens qui partent là-bas, ils reviennent, ils tombent dans l'alcool, ils boivent l'alcool avec les amis. Et des fois, c'est pas l'initiation qui les amène à boire, mais sinon, c'est les amis. Par exemple, aujourd'hui, j'ai quand même une copine qui boit trop, elle peut venir m'inviter. Je viens avec elle, si je dis je ne bois pas, elle va me forcer à boire quand même l'alcool. Sinon, on va te faire quitter de la table, donc tu es obligé de prendre avec eux.
Dans ce cas-là, la cure du Cédira, c'est utile quand même.
Oui, c'est utile parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas retombés sur l'alcool. Ils disent que l'alcool les a fait aboutir. Ils ne font rien dans leur vie. Leur agent, c'est d'aller seulement boire et puis laisse leur femme comme ça, leur famille comme ça, leurs enfants, tout. Même la scolarité, c'est pas facile de leur payer. Et maintenant, comme ils sont revenus à la conscience, ils veulent abandonner l'alcool. C'est pourquoi les gens partent à la Cédira pour arrêter avec la boisson et prendre la nouvelle vie. Il y a certains patients qui réussissent à laisser l'alcool, mais il y a certains gens qui sont retombés dans ça aussi.
Là, eux, les trois
qui sont là.
Ouais, qu'est-ce que tu penses?
Je pense pour les deux, mais l'autre là, psychologiquement, je sais qu'il va revenir dans ça. Mais moi, je veux à ce qu'il laisse par la grâce de Dieu, sinon la boisson nous emporte ici au Tchad. Par exemple, j'ai mon petit frère qui est là, il boit, s'il trouve l'argent, au lieu qu'il donne pour qu'on lui prépare à manger, il rentre la nuit tard, vers les 2h, 3h. Je m'inquiète pour qu'un jour à l'autre, peut-être, on va l'assassiner, je ne sais pas. Parce que quand il boit, il a l'habitude de se battre avec ses amis. Et moi, je l'ai tout conseillé. J'ai informé même à mes parents du village pour qu'on l'appelle ici. On lui parle un peu de ce qu'il est en train de faire. Sinon, il est l'unique garçon parmi nous. On est au nombre de 4, 3 femmes et un garçon. Mais il n'arrive pas à faire quelque chose de demain. Nous, les femmes, on se débrouille comme ça et lui ne peut pas se débrouiller sans nos choses.
Pourquoi les femmes, elles boivent pas? Pourquoi les hommes, ils boivent?
Oui, il y a certaines femmes qui boivent aussi et ils sont là. Dès 6 heures ce matin, tu vas voir les femmes là au cabaret, ils sont en train de boire. Ils laissent même les enfants à la maison, les enfants se traînent au cours de la route comme ça. Donc ça me fait très mal.
Priorité santé, reportage.
Aujourd'hui, Priorité santé vous emmène à N'Djamena, la capitale du Tchad, une ville peuplée d'un million d'habitants, bordée par le fleuve Logon, à 10 km de la frontière camerounaise. Et nous parlons du travail du CEDIRA, le centre de recherche et d'action sur l'alcoolologie tenu par les sœurs françaises et qui est situé dans le quartier de Kabalaï.
C'est le quartier chrétien, un des plus festifs de N'Djamena. Dans la rue principale, à 5 minutes à pied du CEDIRA, des dizaines de bars avec de grandes terrasses servent de l'alcool 24 heures sur 24 aux habitants de la ville. Ce n'est donc pas par hasard que le CEDIRA a choisi de s'installer ici. C'est le but du CEDIRA, recevoir toutes les personnes de toute confession qui souhaitent parler de leur addiction et être conseillées. C'est pour cela que le centre a ouvert un bar sans alcool, le CEDIBAR, ouvert à tous entre 15h et 18h du lundi au samedi.
Alors vous avez suivi une des animatrices de l'équipe en formation dans la paroisse de Kabalaï, en face du CEDIBAR.
Evelyne Manti, 41 ans, mère célibataire de 7 enfants, est animatrice au CEDIRA depuis 2010. Grâce au centre, elle a réalisé son rêve, aider ses frères et sœurs tchadiens à se libérer de l'alcool. Cet après-midi-là, elle dispensait une formation avec une boîte à images inventée par une des sœurs Xavière. Il s'agit de grands cartons avec des dessins colorés très suggestifs qui expliquent pourquoi l'alcool nuit à la santé et à la vie sociale et familiale.
Vous regardez ce jeune-là, vous regardez bien, il est en train de marcher, en train de contempler la nature. Et voyez comment il est content, n'est-ce pas? Avant, je disais que l'alcool, c'est une phase d'excitation. Ça me rend heureuse, n'est-ce pas? C'est vrai que l'alcool rend les hommes heureux, mais cette joie, elle est comment? Dieu nous a créés avec une substance naturelle qu'on appelle la dopamine. Ça nous donne la sensation de plaisir. L'alcool augmente notre dopamine, mais cette dopamine que l'alcool augmente, elle est artificielle. Si je cherche toujours, par exemple, à augmenter ma dopamine dans l'alcool, alors ça va me conduire dans un autre chemin. Il y a plusieurs choses pour augmenter sa dopamine. Par exemple, dans le sport, ici, regardez, il est en train de marcher en regardant, en contemplant la nature. Il est content, il est heureux.
Comment on peut aider les alcooliques au Tchad?
Pour aider les alcooliques au Tchad, vraiment, c'est très difficile. Ceux qui viennent ici, ils viennent d'eux-mêmes. Parce que quand on vient dans les paroisses, les CV, dans les quartiers pour faire des animations en alcoolologie, bien sûr, les alcooliques qui sont là, s'ils se sentent dedans, ils décident et ils nous demandent comment ils peuvent faire pour abandonner l'alcool. Donc on les oriente vers le CEDIRA, comme au CEDIRA ici, la sœur Thérèse est une psychologue, on a aussi une religieuse, la sœur Espéciose, on arrive un peu à les convaincre et puis ils acceptent. Et on les amène à l'hôpital pour leur faire la cure.
Tu me parlais tout à l'heure d'un enfant qui a réussi à convaincre son père de venir te voir. Donc, est-ce que tu peux me raconter cette histoire?
C'était en 2012 quand j'enseignais au CEPE. Il y avait un enfant à l'âge de 6 ans. Quand j'ai donné le cours d'alcoolologie, l'enfant s'est levé pour me dire vraiment maîtresse, nous, après le repas, le papa nous donnait le tire à boire. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'est le tire. Je lui pose la question. Après, pendant la récréation, il était sorti. Il avait trouvé un sachet comme ça par terre. Il m'avait emmené pour me montrer en disant, maîtresse, c'est ça ce qu'on appelle le tire. J'ai lu dessus, c'est une boisson alcoolisée, c'est de la liqueur. Donc, j'ai dit, ah bon? C'est comme ça que vous buvez à la maison? Il me disait oui, oui. Et après, quand je lui ai expliqué les méfaits de l'alcool sur l'organisme, tout, cet enfant, lui, maintenant, quand il était parti à la maison, il commence. Quand ils ont fini de manger, son père leur donnait la boisson alcoolisée comme d'habitude. L'enfant a refusé d'abord. Et il avait dit à son papa que ma maîtresse disait, si on continue à boire cette boisson, on risque de mourir. Et toi, si tu meurs, moi, je suis encore très petit, qui va s'occuper de moi? Et du coup, son père avait eu peur et son père a cherché de venir à l'école me voir. Puis j'ai essayé de parler avec son père. Je lui ai sensibilisé sur les méfaits de l'alcool, sur l'organisme, tout. Et son père a pris de la conscience et maintenant, il va mieux.
Il avait quel âge cet enfant?
Il avait 6 ans.
C'est très très jeune, non? C'est courant ici?
Oui, c'est courant ici. Même les bébés, comme les mamans qui boivent de l'alcool, même si elles ont un bébé, elles donnent aussi à boire à cet enfant. C'est comme ça qu'on fait ici au Tchad. Au moment de la grossesse, les femmes disent qu'il faut boire de l'alcool pour que l'enfant soit blanc. Mais quand l'enfant est déjà né, on dit, selon la croyance, quand tu as un enfant, un petit enfant que tu manges et que tu ne lui donnes pas à manger, l'enfant va se révolter ou il va se fâcher, il va mourir, c'est ça. D'autres gens qui disent que quand ils ont trop de soucis, par exemple, ou bien trop de problèmes, il faut qu'ils boivent pour enlever les soucis ou bien pour résoudre le problème. Donc moi, je leur dis, quand on cherche toujours à résoudre le problème dans l'alcool, c'est pas une bonne manière parce que le problème reste toujours là.
On dit aussi que l'alcool permet d'avoir des amis.
Oui, et moi je dis toujours que moi, je ne bois pas l'alcool, mais j'ai toujours aussi des amis.
On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de la prise en charge médicale des personnes alcooliques au Tchad.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes au Tchad. L'alcoolisme est un véritable fléau dans ce pays de 12 millions d'habitants. Une étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sortie en décembre 2014, montre que l'usage nocif d'alcool entraîne dans le monde 3 300 000 décès chaque année. Et si l'on ne considère que les buveurs dans la population, les buveurs africains se classent en tête, suivis par les Indiens, et les buveurs tchadiens seraient les plus gros buveurs d'alcool au monde, avec 33,9 litres d'alcool pur ingérés par an. Alors comment les personnes alcooliques sont-elles prises en charge au Tchad? Suite du reportage de Valentine Bourra.
Bienvenue à Jamena, au Tchad qui a eu les bras ouverts. C'est l'hospitalité malgré un peuple qui a trop souffert. Malgré les différences, on est tchadiens et on est fiers. On rêve de paix, d'un meilleur avenir pour nos frères. Bienvenue à Jamena, fais le montrer, branche ta caméra. Mate les rues, mes frères et leurs camarades. Les petits vendent le cola et vont plus à l'école. Les grands n'ont pas de travail, beaucoup sont dans l'alcool. Ouais, j'aime pour mon pays malgré les armes et les treillis. J'y vais quand je peux, voir mes frères et ma patrie. Ressourcer, manger la poule et les plâtries, voir la foule du marché central jusqu'au bord du charri. Sur les terrains vagues, y'a des étaux et des Drogba qui rêvent de voir leur chair comme le pétrole de Doba.
Valentine Bourra, vous êtes revenue avec la sœur Thérèse à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine au 8e jour de la cure de désintoxication, 2 jours avant leur sortie.
Oui, ce jour-là, la sœur leur a fait remplir une fiche pour les questionner sur leur expérience avec l'alcool et réfléchir en quoi l'alcool a posé des problèmes dans leur vie.
Voilà, donc nous sommes le 9e jour.
Huitième.
Ça fait exactement une semaine qu'ils sont arrivés. Et tous les jours, ils ont une fiche.
Oui.
Où ils doivent répondre à des questions, discuter avec l'animateur du CEDIRA qui vient discuter, partager, les aider à réfléchir un petit peu à pourquoi l'alcool est venu dans votre vie. Donc on essaye de réfléchir à partir de fiches, et puis au fur et à mesure que la semaine avance, on essaye de creuser un peu plus son histoire avec l'alcool en fait. Alors là aujourd'hui c'est la gestion des pensées d'alcool. Je ne sais pas si depuis que vous êtes arrivé, vous avez eu envie de boire de l'alcool. Est-ce que c'est arrivé?
Non.
Comment ça, non?
Bon, c'est au moins, non.
Parce que toi, tu t'es arrêté quand, Vincent?
J'ai...
2 jours avant la...
Une semaine avant de venir au travail.
C'est ça,
oui.
Toi?
Pour moi, c'est 4 jours.
4 jours, oui, c'est pas beaucoup.
Moi, j'ai une semaine.
Et Robert?
Moi, là. C'était le jour que je voulais venir ici à la quête, c'est ça, j'ai vu.
À la veille.
Ah, toi, c'est la veille, carrément?
Nous, c'est à la veille.
Ah, d'accord.
Le samedi.
C'est ça. Moi, je crois que le samedi, là, quand tu es venu à Parole et Soutien, tu avais pris un peu, non? C'est ça. N'est-ce pas? Ah oui, j'aime bien ce que j'avais vu, parce que tu es un petit peu excité, la parole facile, hein, un peu sous l'effet, là. Donc, depuis que vous êtes ici, vous n'avez pas eu envie?
Non.
Jamais?
Jamais.
Bon, ça peut arriver que vous ayez envie de prendre. C'est même assez normal dans le cursus d'une personne alcoolique.
Ouais.
Ça s'appelle le craving. C'est-à-dire qu'on a très, très, très envie, là. On ne peut pas s'empêcher... Si vous passez devant un bar, que vous voyez de l'alcool, non, vous vous dites là, il faut absolument que je prenne de l'alcool. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, si ça vous arrive, et je pense que ça va vous arriver, dans un milieu où vous allez retrouver les amis et tout ça, peut-être que la tentation de boire va venir. Je vois Robert qui dit non, il ne faut pas dire non.
Si, ça me fait beaucoup dépenser trop.
Oui.
Je gaspille beaucoup mon argent et j'ai déjà de la famille.
Oui.
Et je ne peux pas rester comme ça pour utiliser l'argent à cause de l'alcool seulement. Je cherche l'avenir de mes enfants, de
oui. Oui.
Pour ne pas rester, tous mes enfants sont à l'école et je ne peux pas rester comme ça.
Bon, ça, c'est... Les enfants sont une bonne motivation. Hein. Parce que c'est vrai que si vous transmettez à vos enfants des choses, ils ne vont pas vous respecter même. Donc c'était pour vous dire que les pensées d'alcool, il faut les travailler. Parce que même si aujourd'hui vous n'en avez pas, il y a bien des chances qu'en sortant d'ici, ça vous rattrape. Est-ce que vous comprenez bien le français?
Oui.
Tout le monde? C'est pas la peine de traduire.
Ouais, c'est pas la peine de
parler. Donc, c'est très bien.
Alors donc voilà, on va essayer de travailler un petit peu ça ce matin. Et alors les pensées d'alcool, il faut savoir que ça vient, mais ça passe. D'accord.
Ouais.
Et donc il faut vous dire que c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. Et quand les nuages sont passés, ça a disparu. Eh bien, l'envie ne dure pas. L'envie de boire de l'alcool, même si vous l'avez, il faut trouver un moyen de la laisser passer. Il faut vous rappeler que ça ne va pas durer. Et aujourd'hui, vous allez faire marcher votre mémoire. Vous allez faire deux colonnes et vous allez écrire 10 conséquences négatives de votre alcoolisation. Et de l'autre côté, 10 conséquences positives de votre sobriété et de votre abstinence depuis 10 jours, enfin, depuis 8 jours. Ça va ? Donc, vous voyez le bas de la feuille, là, vous faites deux colonnes, et vous essayez de vous rappeler comment c'était quand vous étiez alcoolisé, et comment c'est maintenant.
Valentine, en novembre, vous avez suivi 3 curistes. On vous retrouve avec Théodore, un ancien soldat âgé de 34 ans.
Nous sommes le troisième jour de la cure. Dans la chambre d'hôpital, située dans une aile un peu en retrait, sont disposés 5 lits d'hôpitaux. Théodore, un militaire de profession, porte une perfusion au poignet gauche pour recevoir des tranquillisants. Son bras gauche a été amputé pendant la guerre civile tchadienne en 2008, lorsque les rebelles sont entrés dans la capitale.
Je suis venu à la cure pour m'arrêter parce que l'alcool m'a gaspillé trop. Beaucoup d'argent j'ai utilisé, je n'arrive même pas à m'en garder.
Tu as commencé quand ?
J'ai commencé depuis 2008.
Et avant ça, tu as fait l'armée ?
J'ai fait l'armée, oui. Je suis un secouriste.
Ça te plaisait l'armée ?
Avant, ça me plaît, mais maintenant, là, ça me dégoûte. Et c'est choisi entre eux, ils te donnent des grades. Ils se donnent des voitures, se roulent avec ça. Et nous, les autres, là, ils nous voient comme ça seulement.
Mais est-ce que tu penses que l'alcool, c'est mauvais pour la santé?
Je sais bien que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Mais quand tu n'as pas un ami, il faut promener avec tes amis. Et quand on te donne, tu ne peux pas refuser de boire. Si tu ne bois pas, on te rejette.
Tu as une famille?
Oui, j'ai la famille, oui. J'en ai 5 enfants. C'est pour cela que je suis venu au cure, parce que si je continue à voir là, ça va devenir autre chose dans le foyer. J'ai décidé de faire la cure pour m'arrêter la boisson, faire quelque chose dans ma vie. Sinon, j'ai beaucoup d'enfants. Ce sont des garçons là, personne qui va les aider.
Comment tu as trouvé le courage pour venir ici?
J'ai trouvé le courage là parce que grâce à l'autre, la sœur Evelyne, qu'elle était chez nous là-bas. Ma grand-sœur l'a informé et mon oncle même m'a parlé, il travaille avec notre sœur, qui voulait m'amener ici à la cure pour faire un peu de repos. Et parfois la nuit, là, je ne dors pas. Je ferme les yeux, là, je me trouve au village natal.
On comprend bien qu'au-delà d'un problème de santé, l'alcoolisme au Tchad est aussi un problème de société majeur. Les conséquences sur la vie de famille sont désastreuses, violence, perte de revenus, enfants livrés à eux-mêmes, chômage, isolement. Comment la sœur Thérèse s'est-elle formée finalement à la lutte contre l'alcoolisme, à la prise en charge des malades ?
La sœur Thérèse a été envoyée par l'ordre auquel elle appartient, les Xavières, au Tchad en 2005. En France, elle œuvrait auprès des jeunes dans les aumôneries de collèges et de lycées. Lorsqu'elle est arrivée à Djamena, elle était en cours de master en psychologie et a décidé d'écrire son mémoire de master 2 sur l'alcoolisme au Tchad. Aujourd'hui, elle suit une formation en ethnopsychologie grâce à l'association MANA afin de mieux comprendre les histoires personnelles des alcooliques dans leur contexte culturel pour mieux les écouter.
Et alors justement, grâce à son expérience et à ses connaissances universitaires, elle a bien cerné les causes de l'alcoolisme au Tchad et elle nous les explique.
Ici, il y a peut-être des causes plus spécifiques qui sont liées aux nombreux conflits qu'il y a eu au Tchad et qui ont des répercussions encore aujourd'hui, hein, entre une certaine tension interethnique et qui n'est pas toujours évident à vivre au quotidien. Il y a quand même une violence latente qui est là Et je pense que du coup, l'alcool peut aider à vivre cette violence latente. Alors les raisons que l'on cite souvent ici, c'est j'étais avec les amis par mimétisme pour faire la fête. Alors j'ai toujours un peu de peine avec cette raison et cette cause, parce qu'au fond, quand on creuse un peu l'histoire de la personne, on s'aperçoit qu'il y a mille raisons qui ont pu générer cette alcoolisation et cette addiction à l'alcool. On remarque tout de même beaucoup le traumatisme, soit d'une tradition qui peut parfois être un peu perverse et qui provoque des défenses de repli, je pourrais dire. Et puis, des peurs qui sont liées aussi à ce contexte quand même difficile, hein, économico, politico, socio, qui est tout de même pas facile au Tchad. La vie est chère. En ce moment, nous vivons une pénurie d'essence qui provoque pas d'électricité, qui provoque que l'eau ne monte pas dans les châteaux d'eau, donc il y a moins d'eau. Donc voilà, c'est au quotidien, ça devient un tout petit peu difficile. Et je crois que tout ça, oui, ça peut mener à une alcoolisation. J'avais aussi noté dans un travail que j'avais fait pour un master en psychologie les rêves qui reviennent souvent avec les morts qui habitent ces rêves et qui parfois font peur. Je me souviens de plusieurs interviews de personnes qui s'alcoolisaient et qui disaient qu'ils prenaient de l'alcool pour empêcher de voir revenir les morts dans les rêves, qui peuvent être angoissants puisque le mort peut demander certaines choses si avant dans la vie antérieure certains conflits n'avaient pas été réglés. Donc tout ça c'est assez spécifique au contexte africain. Il y a aussi beaucoup le problème des enfants qui sont envoyés dans une autre famille pour être scolarisés, donc on sort du contexte familial rapproché pour les envoyer chez l'oncle, la tante à la ville pour aller à l'école. Mais voilà, ils ne sont pas considérés forcément comme les enfants de la tante ou de l'oncle, et du coup ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de colère, et donc ça peut aussi inciter à l'alcoolisation. Bon, voilà, c'est quelques données que je donne, mais il y a X raisons pour s'alcooliser ici au Tchad.
Priorité santé, reportage.
Vous écoutez Priorité santé sur RFI et aujourd'hui nous parlons de la prise en charge médicale des personnes alcooliques au Tchad. Valentine Bourra, pour lutter contre l'alcoolisme au Tchad, le CEDIRA a mis en place un autre projet en plus justement de ces cures de sevrage.
Oui, en 2013, 66 femmes du quartier de Walia à Djamena qui produisaient de l'alcool ont été formées à d'autres activités génératrices de revenus. Au Tchad, la production et la vente d'alcool artisanaux comme la bilibili est une tradition très ancrée que les femmes ont du mal à abandonner. Et comme la fabrication se fait dans la concession, toute la famille goûte, à commencer par les plus petits.
Comment le Sédira a réussi à convaincre ces femmes d'abandonner cette tradition.
Les femmes étaient déjà très motivées car elles souffraient de maladies liées à cette production. Pour produire la bilibili, il faut brûler l'alcool sur des réchauds et c'est donc toxique pour elles. Elles dépensaient plus d'argent pour se soigner qu'elles n'en gagnaient en produisant l'alcool. J'ai rencontré une dizaine de ces femmes et j'ai demandé à la doyenne du groupe, Madame Sylviane, 45 ans, comment était leur vie avant que le Sédira ne les aide à changer d'activité.
On fait les savons et puis d'huile, le pommade qu'on pourrait.
Et avant, qu'est-ce que vous faisiez?
Avant, là, on prépare de bilibili.
Hein?
L'école.
C'est quoi le bilibili?
C'est le boisson local.
Comment vous faites le bilibili?
Quand on met l'autre, le sorgho, dans l'eau, on enlève, on fait chasser le sorgho. On fait quelques jours, pendant 4 jours comme ça, là. On enlève pour mettre au soleil. Après, c'est chassé maintenant. Pendant 2 jours, là, ça chasse bien, là. On ramène ça au moulin. Après, on puise de l'eau dans le fût pour bouillir ça. Tu peux faire ça pendant 3 jours. 2 jours, le troisième jour, là, ça devient la boisson maintenant.
C'est fort comme boisson?
Si tu prends beaucoup, ça saoule. Et puis on achète. Une casse, c'est à 25 ou 50 francs. Ça dépend de ton capacité.
Pourquoi vous avez décidé de changer d'activité?
Mais on fait avec le fagot, non? Le feu, là. Hein? Pour bouillir la boisson, là. On prépare avec le gros bois.
Donc ça vous faisait à vous des problèmes de santé?
Si. On ne voit pas bien, on ne sent pas bien là, tout le corps. C'est pour cela qu'on a arrêté. Il y avait les gens de Sédira, ils sont venus pour nous expliquer. Mieux que vous changez, on a vu leur formation comme ça, c'est bon, on a changé. Maintenant, on laisse la boisson. Et on fait le savon avec la pommade corporelle. Là.
Et comment ça va financièrement, l'argent? C'est bien?
Ça rentre bien, mais pas totalement. Surtout l'huile, là, le pommade, là, on achète bien. Mais le savon, là, on achète avec difficulté.
Globalement, vous êtes contente d'avoir changé?
Si. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie. Parce que quand on fait ça, là, on est un peu solide. Avant, là, vraiment, c'est un peu souffrant. Parce que tu vas aller puiser de l'eau, chercher de bois. Tu es là à côté de feu, là. La feu, là, ça allume beaucoup. Si tu es malade, là, tu ne peux pas.
Et l'alcool, c'est un problème ici au Tchad, à N'Djamena. Les hommes, après, ils boivent, ça fait des problèmes ou...
L'alcool, là, il y a d'autres qui boivent, ils viennent à la maison, ils se battent avec leurs femmes, avec leurs amis, partout. Ça nous donne de maladies aussi.
Qu'est-ce que vous rêvez de faire plus ici? Vous voudriez faire d'autres produits?
Pour le moment, on veut réaliser quelque chose. Même avoir une machine à coudre ou bien un moulin. Là, ça va nous soulager.
Valentine, dans cette rencontre avec des femmes productrices d'alcool, vous étiez accompagnée par Evelyne Manti, formatrice au Sédira. C'est elle qui a encadré la formation des femmes de Walia dans ce quartier de N'Djamena. Elle aussi fabriquait de l'alcool avant de travailler pour le Sédira.
Oui, jusque dans les années 2000, Evelyne préparait la bilibili dans sa cour. Mais elle cherchait à changer d'activité et lorsqu'elle a entendu parler du Sédira, elle a immédiatement senti que c'était sa voie, une opportunité pour changer de vie. Et ça a marché. Elle connaît donc très bien les problématiques des femmes productrices d'alcool.
Généralement ici, quand les femmes qui préparent aussi l'alcool, elles ont toujours des problèmes de vision, de santé partout. Comme elles viennent de dire que le feu, ça nuit aussi aux yeux, la vue. Vous risquez même de perdre la vue parce que la fumée, quand on prépare l'alcool, il y a un grand feu, un grand fumée qui sort. Et ça risque d'abîmer aussi les yeux. Et généralement, les femmes qui préparent, elles boivent aussi. Donc, ça nuit aussi à leur santé. Même le foie, elles ont des problèmes d'estomac, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes de gastrique.
Et il y a beaucoup de femmes, N'Djamena, qui préparent l'alcool. C'est une femme sur deux. C'est quoi le...
Les femmes qui préparent N'Djamena, elles sont nombreuses. Je peux dire qu'il y a 99% de femmes de N'Djamena qui préparent l'alcool. Les femmes qui ne préparent, même celles qui se disent les protestantes, même elles préparent aussi l'alcool. Donc le problème est un peu vraiment, mais comme on a commencé déjà avec les femmes de Walia, maintenant on va descendre paroisse par paroisse et puis après, si on a la possibilité de continuer avec les femmes du quartier, tout ça, nous voulons bien aider ces femmes-là à abandonner leur activité et puis changer d'autres. Elle, maintenant, elle gagne plus d'argent qu'avant. Mais au début, quand tu leur dis que fabriquer l'alcool n'est pas bon, donc il faut changer, les femmes, du coup, disent que comment ? Elles fabriquent l'alcool, elles gagnent de l'argent. Pourquoi ? On va leur dire d'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur mettre quelques moyens pour changer l'activité, là. Donc, elles sont vraiment d'accord. Et maintenant, elles gagnent plus, mieux. Et le problème de santé aussi, ça ne pose pas comme avant. Donc, elles se sentent maintenant bien par rapport qu'avant, en préparant l'alcool.
Valentine Bourra, les cures du Cédira sont aussi ouvertes aux femmes, il n'y a pas que les hommes.
Oui, tout à fait. J'ai rencontré une ancienne curiste, Jodine Omangui, 32 ans, célibataire. Elle a suivi la cure du Cédira en 2012. Jodie habite seule, à plus d'une heure de bus du Cédira. Elle est venue pour revoir les animateurs 2 ans après sa cure. Les anciens curistes sont les bienvenus au Cédibar. Ils sont d'ailleurs encouragés à venir régulièrement, dans la mesure du possible, pour continuer à être soutenus, se sentir entourés.
Jodie vous a raconté son histoire.
J'ai commencé un peu tôt, c'était en 92. J'ai commencé à goûter l'alcool. Peut-être j'ai 15 ou 16 ans. 16 ans.
Tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé qui t'a fait boire?
Personne ne m'a fait boire. C'est dans la maison. Chaque fois, notre marade, elle nous envoie à acheter l'autre l'alcool. On vient, on les sert dans un gobelet. 2 bouteilles, on laisse le fond. On goûte un peu. Demain, c'est la même chose. Après, demain, c'était la même chose. C'était comme ça, j'ai pris le goût de l'alcool.
Et comment tu te sentais quand tu buvais?
Quand je buvais, je me sentais bien. Ça ne me fait même pas du mal ni quoi. Mais après ça, là, comme c'est trop dans le sang déjà, quand je prends un peu seulement, là, ça me rend malade, ça me rend nerveuse et j'ai le problème tout le temps avec les gens. Moi, quand je bois déjà, là, je ne veux pas que, qu'on me dise des mots choquants. Je ne me contrôle pas. C'est pour arrêter l'alcool. C'est ça qui m'a poussée. Après, j'ai demandé est-ce que je peux faire la cure, mais c'est où? Donc, il y a un cousin, c'est un journaliste. C'était comme ça. Il m'a dit, ah, si tu veux faire l'autre, la cure, là, c'est bien. J'ai un ami, là. Il est là quelque part. Si réellement, si tu veux faire la cure, je vais aller le trouver. Et puis... il va t'orienter. C'est à la cathédrale. Et comme ça, tu vas t'inscrire et puis tu peux faire la queue. J'ai dit, ok, je lui ai dit que je suis sérieuse. Tout ce que j'ai fait là, bon, j'ai vu que ce n'est pas bien. Et c'était comme ça, je suis partie. Il m'a amené d'abord, je suis partie trouver le gars là. Et puis le gars m'a amené chez la sœur Thérèse. On a discuté et tout ça, je l'ai expliqué et tout, comment ça s'est passé. Et c'était comme ça, elle m'a inscrit parmi ces gens-là. On est au nombre de 4, on était parti. À ce temps-là, la cure, c'était à l'hôpital hors de Marthe. On a fait 10 jours. C'était le 9 décembre 2012. Avec comment?
Raconte-moi comment tu as vécu la cure.
Bon, c'était bien passé même. J'ai supporté et tout jusqu'à la fin. Et pourtant, les autres ne peuvent pas supporter. Des fois, ils viennent 2-3 jours, ils démissionnent. Mais moi, j'ai fait ça jusqu'au bout et jusqu'à maintenant même. je me sens bien.
Tu peux me raconter un souvenir que tu as vécu pendant la cure? Un bon souvenir?
Un bon souvenir, bon. J'étais la fille parmi les seuls garçons. Les trois garçons là. Mais on se comprenait bien. Jusqu'à au bout de notre cure. Ça, ça s'est bien passé.
C'était pas dur d'être la seule fille avec des garçons?
Ouais, bon, moi je suis habituée. Je suis habituée à rester avec les garçons. Donc ça ne me gêne pas.
Et quel effet positif t'as vu sur ta santé après la cure?
Bon, après la cure, leur médicament là, ça m'a l'autre un peu fatiguée. Mais après le troisième jour là, bon, ça va. Je me sentais bien jusqu'au bout.
Tu es fière de toi?
Je suis fière de moi. Je suis très fière même de moi.
Valentine Bourra, merci pour ce reportage au Tchad sur la prise en charge médicale des personnes alcooliques. Une émission réalisée par Didier Bleu. Bonne journée à tous et à demain.